Lizzie présente Le chant 2 de la belle Gariade, La reine des sortilèges, de David Eddings, lu par Franck d'Aquin. Pour Hélène, qui m'a donné ce que j'ai de plus cher au monde, et pour Mike, qui m'a appris à jouer. Prologue. Où est relaté le combat des royaumes du Ponant contre la plus barbare des invasions et l'infamie de Khal Thorak. D'après la bataille de Vaux Mimbre. Dans le matin du monde, Thorak, le dieu pervers, s'empara de l'orbe d'Aldur, avec laquelle il s'enfuit, car il était assoiffé de pouvoir. L'orbe refusa de se soumettre à sa volonté, et son feu le marqua à jamais d'une terrible brûlure. Pourtant, l'orbe lui était trop précieuse pour qu'il se résolût à la restituer. Alors le sorcier Belgarath, disciple du dieu Aldur, mena le roi des Aloriens et ses trois fils dans une quête qui les conduisit jusqu'à la tour de fer de Thorak, où ils recouvrèrent l'orbe. Thorak tenta de les poursuivre, mais il fut contraint de battre en retraite devant la colère de l'orbe qui le repoussa. Belgarath plaça Shérek et ses fils sur les trônes de quatre grands royaumes, afin qu'ils montent éternellement la garde contre Thorak. Il investit Riva de la mission de veiller sur l'orbe et lui révéla qu'aussi longtemps que celle-ci serait détenue par l'un de ses descendants, le Ponant serait en sûreté. Les siècles succédèrent aux siècles sans que Thorak se manifeste, jusqu'au printemps de l'an 4865. Alors les Nadrak, les Tulles et les Murgos déferlèrent par vagues gigantesques sur la Drasnie. Au centre de cette marée humaine, se dressait l'immense pavillon de fer de celui auquel on avait donné le nom de Khal Thorak, qui voulait dire « Dieu et roi ». Les villes et les villages devaient être rasés et brûlés, car le but de Khal Thorak n'était pas la conquête, mais la destruction. Ceux qui réchappaient au massacre étaient livrés aux prêtres Grolim avec leurs masques d'acier pour être sacrifiés selon les rites innommables des Angarak. Seuls survécurent ceux qui cherchèrent refuge en Algarie, ou furent recueillis à l'embouchure de l'Aldur par les vaisseaux de guerre cheresques. Se tournant vers le sud, les hordes s'abattirent ensuite sur l'Algarie. Mais elles n'y trouvèrent pas de ville. Les Algarois étaient des nomades, de farouches cavaliers qui ne se replièrent devant les Angarak que pour revenir à la charge par surprise, leur infligeant des pertes cruelles. Les rois d'Algarie avaient instauré leur trône à la forteresse, une montagne de pierres érigées de main d'homme aux murailles épaisses de 30 pieds, contre lesquelles les Angarak se heurtèrent en vain avant de se décider à assiéger la citadelle. Le siège se prolongea 8 années, en pure perte. Ce délai devait fournir aux Ponants le temps de se mobiliser et de faire ses préparatifs. Les généraux s'assemblèrent à l'école de guerre impériale de Tol Honnêt pour affûter leur stratégie. Tout sentiment de rivalité nationale banni, Brand, le gardien de Riva, fut désigné pour assumer le commandement plein et entier des opérations. Il arriva accompagné de 2 étranges conseillers. Un homme d'âge vénérable, mais encore très vert, qui revendiquait la connaissance des royaumes Angarak même, et une femme d'une beauté stupéfiante, à l'allure altière, dont le front s'ornait d'une mèche d'argent. Brand leur accorda toute son attention et la plus grande déférence. À la fin du printemps de 4875, Khal Thorak renonça à prendre la forteresse et se tourna vers la mer, à l'ouest, toujours harcelé par les cavaliers algarois. Dans les montagnes, Les Ulgots sortaient nuitamment de leurs cavernes et se déchaînaient sur les Angaraks, les massacrant sauvagement pendant leur sommeil. Mais les légions de Kaltorak étaient innombrables. Après s'être regroupées, elles se dirigèrent vers la ville de Vomimbre, en empruntant la vallée de la rivière Arend, dévastant tout sur leur passage, et dès le début de l'été, les multitudes Angaraks se déployaient pour prendre la cité d'assaut. Le troisième jour de la bataille, une trompe sonna par trois fois. Puis, les portes de Vomimbre s'ouvrirent et les chevaliers Mimbraïques attaquèrent de vive force les premières lignes des milices Angaraks, leurs destriers broyant les morts comme les vivants sous leurs sabots ferrés. Au même instant, la cavalerie algaroise, l'infanterie drasnienne et les irréguliers Ulgots, sous leurs voiles, surgirent sur le flanc gauche, tandis que les têtes brûlées choresques et les légionnaires tolnedrins faisaient tout à coup irruption sur la droite. Attaqués sur trois côtés, Kaltorak engagea toutes ses forces dans la bataille. Mais les Riviens aux uniformes gris, les Sendariens et les archers asturiens fondirent sur ses troupes par l'arrière et, sombrant dans la confusion, les Angaraks commencèrent à tomber comme fétus de paille sous la faux du grand moissonneur. Alors l'apostat, Zédar le sorcier, se précipita en hâte vers le pavillon de fer noir hors duquel Kaltorak n'avait pas encore paru. Et au maudit, il annonça « Seigneur, tes ennemis nous encerclent en immenses nuées. En vérité, même les Riviens au ventre gris sont venus en nombre pour défier ta puissance. » Dans son ire, Kaltorak se leva et déclara « Je m'avancerai, de sorte que les détenteurs illicites de Kthragyaska, la pierre qui était mienne, me voient et prennent peur de ma personne. Envoie-moi mes rois. » « Puissant seigneur, lui répondit Zédar, tes rois ne sont plus. Le combat leur a coûté la vie, de même qu'à une multitude de tes prêtres Grolim. » La colère de Kaltorak n'eut plus de borne à ces mots. Une langue de feu surgit de son orbite droite et de l'œil qui avait cessé d'être. Il ordonna à ses ordonnances de lier son bouclier au bras qui n'avait plus de main. Il brandit l'épée noire, meurtrière, qui était la sienne, et s'avança pour livrer combat. C'est alors que s'éleva des lignes riviennes une voix qui disait « Au nom de Bélar, je te provoque en duel, Thorak. Au nom d'Aldur, je te crache mon mépris au visage. Que cesse ce bain de sang, et je te rencontrerai pour décider de l'issue de la bataille. Je suis Brand, le gardien de Riva. Relève mon défi, ou emmène avec toi tes hordes pestilentielles, et ne reviens plus dans les royaumes du Ponant. » Kaltorak se détacha de ses troupes et s'écria « Où est-il, celui qui ose mesurer sa chair de mortel au roi du monde ? Qu'il prenne garde, car je suis Thorak, le roi des rois, Dieu entre les dieux. Je réduirai à néant ce Rivien qui ose si fort la voix. Mes ennemis périront, et Kthragyaska sera de nouveau mienne. » Le gardien de Riva s'avança, brandissant une lourde épée et un bouclier voilé d'un linge. Un loup, au poil blanchi, marchait à son côté, et une chouette, au plumage neigeux, planait au-dessus de sa tête. « Brand est mon nom, » dit le gardien de Riva, « et je me battrai contre toi, Thorak l'infâme et le contrefait. » Mais alors Thorak vit le loup et lui dit « Va-t'en, Belgarath, fuis si tu tiens à la vie. » Et à la chouette, il dit « Abjure ton père, Polgara, et vénère-moi. Je t'épouserai et ferai de toi la reine du monde. »